Aujourd'hui, à Rencontre, la recherche de la sainteté avec Marguerite Castillon du Perron. Marguerite Castillon du Perron est historienne. Elle a publié plusieurs biographies et même deux romans. Cette femme, mariée et mère de 6 enfants, fut un peu surprise au début des années 70 de voir sa fille aînée opter pour la vie contemplative et devenir rapidement prieure des sœurs de Bethléem au Thoronnais, dans le sud de la France. Cela l'a amenée à consacrer 10 ans à la rédaction d'une biographie remarquable de Charles de Foucault, paru chez Grasset et devenu en quelques mois un best-seller. Ce qui a intéressé Marguerite Castillon du Perron chez Charles de Foucault, c'est le radicalisme de la passion et la prise de conscience de la relativité de ce que nous sommes. Pour elle, comme pour Charles de Foucault, cette prise de conscience mène à la sainteté, qui consiste en somme à devenir totalement soi-même. Marguerite Castillon du Perron est interviewée chez elle à Paris par Marcel Brisebois.
Marguerite Castillon du Perron, comment expliquez-vous qu'à la suite de sa conversion, Charles de Foucault soit devenu un homme, si on peut dire, excessif, un chrétien excessif? Il aurait pu continuer sa carrière militaire, il aurait pu vivre dans le monde, il décide au contraire de devenir moine et d'aller s'enfermer dans une trappe, d'être là parmi les hommes les plus rigoureux. Comment expliquez-vous ce radicalisme?
Mais ce radicalisme, c'est le radicalisme de la passion. Et alors, on ne peut jamais rendre compte d'un état mystique, mais je pense qu'il a été envahi par la présence de Dieu avec une telle violence que, découvrant enfin cet amour et cette altérité et ce feu qu'il avait toujours cherché sans le découvrir, et il n'y a plus que cela pour lui. Il le dit d'ailleurs dans certains textes. Il y a un texte de sa grande confession de 1897. Il dit « À partir du moment où j'ai trouvé Dieu, il ne pouvait plus y avoir que lui ». Malgré la douleur et la brisure de la séparation avec Marie de Bondy. Puis alors, il y a peut-être aussi le côté pénitentiel chez lui.
Vous allez même jusqu'à parler de fureur sacrificielle.
Absolument. Il y a d'abord des traces de jansénisme. Il y a ensuite, on me le demandait hier, je faisais une conférence à quelques personnes, et on me disait ce mot d'abjection, cette fureur sacrificielle, comment l'expliquez-vous? C'est cette rencontre entre l'infini et le fini. Chez des gens qui ne sont pas du tout avertis au point de vue spirituel, ils se disent, mais voyons, cet homme qui ne fait aucun péché, qui s'accuse tout le temps de péché. Mais c'est la distance qui s'accroît quand on prie et quand on est envahi par Dieu, entre le sentiment du peu que nous sommes et de l'infini de Dieu. Et vous voyez de la même manière une Catherine de Sienne que je pratique un petit peu en ce moment, qui apparemment, pour vous et moi, n'a jamais péché au sens où on pêche, et qui se sent porteuse de toute l'iniquité du monde, parce qu'elle a rencontré Dieu. Alors ceci nous amène à parler de l'humilité, dont j'aime beaucoup parler, parce que l'humilité n'est pas du tout la fausse humilité. Elle n'est pas de dire « je suis bête » ou « je suis incompétent ». Elle est de sentir la relativité de ce qu'on est vis-à-vis de Dieu. Donc Charles, quand il mesure l'amour absolu de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu, les plus petits péchés qu'il a commis, et il en a quand même commis pas mal, n'oublions pas que s'il ne l'a pas su, il a probablement ici ou là laisser quelque enfant, ça n'est pas gênant pour son procès de béatification, parce que il n'en a pas reçu la preuve, mais il sent qu'il a fait du mal, qu'il a fait souffrir tout de même. Alors il se sent très pécheur, mais son engagement total vis-à-vis du Christ, c'est un engagement d'amour, c'est tout.
Prenons un exemple, si vous voulez, de l'histoire ancienne. N'eût-il pas mieux valu pour Charles de Foucault, je ne sais pas, de fonder la Croix-Rouge, par exemple, qui était militaire, qui connaissait les horreurs de la guerre, etc., enfin, qui pouvait le deviner, n'est-ce pas?
Oui.
N'est-il pas mieux valu qu'il fondât la Croix-Rouge, comme Dunant l'a fait, plutôt que d'aller s'enterrer dans le désert?
Oui, alors ça, vous posez tout le problème de la contemplation, à laquelle éventuellement vous ne croyez pas. Moi, je crois que la force de la prière et de l'abandon est plus puissante que celle de l'action, et que les contemplatifs tiennent le monde à la pointe de leurs doigts, et que c'est ce qu'il y a de plus important quand on a une vocation de contemplatif. Et les gens de ce monde vous diront, mais que font ces gens? À quoi servent-ils? Et je suis sûre qu'il en faut, et que Charles de Foucault est devenu l'un de ceux-là.
Il devient contemplatif, et il devient contemplatif au milieu des Touaregs. Il aurait pu très bien rester en France dans une abbaye, etc. Il y a de l'ambiguïté là aussi.
Non, il veut aller au bout du monde avec les plus anéantis, les plus opprimés, les plus pauvres. Puis il y a cet appel du désert, il y a cet amour du désert. Et vous remarquerez qu'à la fin de sa vie, toutes les exagérations du début, car je ne nie pas qu'il y ait des exagérations, tous les convertis exagèrent au début, à la fin de sa vie, lui sont rendus tous les désirs et tous les dons qu'il avait. Lui qui était un intellectuel, qui était né pour être un administrateur, il devient l'administrateur du hogar, et au fond le roi du hogar, d'une certaine manière. Lui qui était doué au point de vue ethnologue, linguistique, géographique, il écrit ce merveilleux dictionnaire. Lui qui se voulait moine, il ne cesse d'être envahi par des Touaregs avec qui il parle et qu'il rencontre. Alors cette rencontre de l'autre, ce dialogue se réétablit à nouveau. Je crois aussi qu'il subit peu à peu, à force de prier, ce qu'on appelle l'union transformante. Et alors, il devient omnicône, je le dis dans un de mes chapitres. Il est prière permanente, tout en étant capable de parler. Mais il a fallu toute une période d'enfoncement avant. Et vous le voyez à la fin de sa vie, rire, être ravi de rencontrer des gens, et ne plus refuser de se déplacer, avoir des amitiés avec des officiers, organiser des choses très concrète.
Elle est devenue un personnage important qu'on fait voyager en France, qu'on promène, qu'on exhibe même.
Non, c'est lui qui décide d'aller en France avec la permission de l'abbé Huvelin, parce qu'il, n'ayant pu réussir à fonder, il pense à créer cette union, qui est une union justement de prière à travers sacrifice et vie contemplative. Vous vous rappelez qu'il a toujours voulu fonder et que sa règle est tellement exigeante que personne n'ose lui envoyer personne, et que les gens qui arriveraient à sa suite mourraient de contention, comme dit un de ses supérieurs.
Et pourquoi vouloir fonder?
Ben parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose à faire en Afrique auprès de tous ces gens-là, qu'il voulait être suivi, et que comme tous les gens assez merveilleux et qui deviennent réellement humbles, il pense que ce qu'il fait n'a rien d'extraordinaire et que tout le monde peut en faire autant. C'est absolument, moi je ne sais pas, prenons un exemple concret, j'aime ce qui est concret, comme une cuisinière qui à toute vitesse vous fait une pâte feuilletée merveilleuse et vous dit mais c'est très facile, faites-en autant, et vous faites une espèce de magma infect et immangeable. Alors lui se dit, la vie que je mène est normale, qu'on vienne, mais personne ne peut venir parce qu'on en mourrait.
Il ne soupçonnait pas à quel point elle était exceptionnelle.
Mais non, à ce moment-là il n'aurait pas été saint, il n'aurait pas été lui, ça lui paraissait tout simple. Et la sainteté, c'est ça.
Bon, ben justement, nous tournons autour depuis le début de cette entrevue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la sainteté?
Oui, alors je ne prononce pas le mot saint, n'est-ce pas?
Jamais.
Vous l'avez remarqué.
Je suis étonné d'ailleurs.
Mais oui, parce que je ne suis pas une dame qui vient moraliser, et un livre n'est pas un acte de vertu, c'est un acte de poésie. Alors je ne prononce pas le mot saint, et ça n'est pas venu sous ma plume. Il me semble, j'ai bien réfléchi à ça depuis que le livre est paru, que la sainteté, c'est de devenir totalement soi-même, et que ça n'est pas se forcer. C'est que les choses nous quittent. La chasteté, elle est venue à Charles de Foucault. Il a tellement aimé Dieu qu'après toute cette période de débauche, étant passé par l'amour de Marie de Maudit, je crois pouvoir assurer, avec d'ailleurs le père Voyaume, qu'il n'a plus été tourmenté par ce qui était érotique et sexuel. Ensuite, on dit, cet homme est admirable, il passait ses nuits à prier. Je ne crois pas que c'était un effort pour lui. C'était un bien-être et un besoin. Ensuite, on dit, il ne mange pas. Il distribue tout ce qu'il mange. Mais il est tellement laminé par l'esprit qu'il n'y pense pas. Il donne, ça n'a plus d'importance. Et c'est ça la sainteté. Ça n'est pas quelque chose de conventionnel. Et ça n'est pas une austérité qui rebute et qui vous empêche d'être. C'est simplement qu'on a envie d'autre chose.
Est-ce que l'entourage de Foucault, à la fin de sa vie, le considérait comme un saint ?
Oui, et c'est un des éléments qui fait qu'il va être béatifié d'ici à peu près 4 ans, je reviens de Rome. Sa réputation de sainteté était établie autour de lui. Tout le monde disait, nous avons rencontré un saint. Il émanait de lui un rayonnement tout à fait surnaturel. Et alors les gens les plus agnostiques, et vous remarquerez que beaucoup d'entre ses amis étaient agnostiques et qu'il les respectait comme tels, et qu'il n'essayait pas de les convaincre, eh bien la plupart ont dit, nous avons approché un homme hors du commun. Et c'est un des éléments qui joue pour établir cette sainteté.
C'était vrai auprès des Français, mais est-ce que c'était vrai également auprès des peuples du Hogar ?
Surtout auprès d'eux.
Surtout auprès d'eux.
La Ménocale Moussa Agamastan, dont il s'était défié, après sa mort, a écrit une lettre très belle d'ailleurs, où il expliquait à la famille de Charles de Foucault, nous avons rencontré un saint. Il est d'ailleurs resté fidèle à la France à cause de cela.
Et comment expliquer à ce moment-là qu'il ait été assassiné par des gens qu'il avait servi de toute façon ? C'est un échec.
Mais toute vie de ça est un échec. Et puis d'ailleurs, quel est celui qui disait que toute vie est une catastrophe ? Mais, ou pire, un effondrement. Mais c'était forcément un échec apparent. Alors c'est encore le thème de la communion des saints. On l'a un petit peu trop dit, pour que le grain de blé germe, il faut qu'il s'enfonce dans la terre. Alors Charles de Foucault était pénétré du sentiment de son inutilité, de son échec. Il a été assassiné par erreur. Alors je n'en fais pas un martyr, je ne sais pas ce que l'Église en fera. Il a été pris, l'idée était de déstabiliser le Hogar, d'emmener le marabout blanc pendant la guerre de 1416, de 1418, mais il est mort en 16. Il faisait régner la paix au Hogar, c'était dérangeant. Il fallait qu'on puisse distraire quelques troupes et un peu d'armée pour aller en Afrique. Et les Allemands qui avaient pour alliés les Turcs avaient tout à fait intérêt à ce que les Turcs, via les sénoucistes, ennemis farouches du catholicisme et désireux de s'approprier toutes les richesses qu'on pouvait trouver au Hogar et au-delà du Hogar, ils avaient intérêt à ce que les sénoucistes déclenchent leur Hezou pour s'emparer de Charles de Foucault et l'emmener en Tripolitaine. Et c'était le but de l'opération, à mon avis. Alors on l'a pris, on l'a fichu à genoux, et puis on allait l'emmener. Mais vous vous souvenez peut-être de mon livre, et puis cela a été raconté maintes fois, on l'a donné à garder à un gamin de 16 ans qui a pris peur en entendant des méharistes arriver et qui a tiré. Ça n'a pas du tout fait l'affaire des gens qui l'avaient pris, parce qu'on en a fait un martyr, justement, ce qui n'était pas souhaitable pour eux.
Et aujourd'hui, Charles de Foucault a un rayonnement absolument extraordinaire, dû peut-être moins à la vie que l'on connaît à peine, ou enfin que vous venez de révéler d'une façon quand même assez exceptionnelle, sous un jour absolument nouveau, que grâce à ses écrits, et vous-même comme écrivain, comment jugez-vous ces écrits spirituels de Charles de Foucault ?
Non, ses écrits n'étaient pas tellement connus, je suis désolée de vous contredire, mais il y avait eu beaucoup de livres sur Charles de Foucault. Quand je fais un livre, il y a toujours, vous savez, il y a toujours 300 livres qui parlent de la même personne et qui répètent ce que un ou deux bons livres ont déjà dit. Mais il n'y avait tout de même pas eu de grande biographie depuis 20 ans. Et celle qui existait ne me convenait pas. Alors, ces écrits de Charles de Foucault sont faits dans le style du temps. Il écrivait au crayon pour méditer, sans songer que ça serait jamais publié, ça l'est aujourd'hui. C'est très répétitif. Ce sont des écrits d'amants passionnés au pied de la croix pendant des nuits entières. C'est assez sévère à lire par moments. Et puis il y a tous les adjectifs, tout le ton de l'époque. Et j'ai eu assez de mal à me dépouiller de tout ça, à citer certains écrits sans empâter le livre et le rendre illisible. Mais alors, tout de même, ce qui est très important, c'est toutes les familles spirituelles qui naissent de lui. Alors, il est inspirateur et pas fondateur. Beaucoup de gens se réclament de lui et beaucoup de gens disent se convertir à travers lui. Alors, on ne voit pas les mains repoussées, mais il y a des miracles tout intérieurs.
Mais d'où vient cette fascination ? Parce qu'à lire l'ouvrage que vous avez écrit, il reste que Charles de Foucault me semble demeurer profondément un homme du 19e siècle, par ses idées, par sa pensée, sa sensibilité.
Alors vous, il ne vous fascine pas ?
Je ne dis pas qu'il ne me fascine pas, je dis qu'il me semble demeurer un homme du 19e siècle, et je me demande en quoi vous le trouvez moderne. En quoi échappe-t-il précisément à ce 19e
siècle ? Il est tout de même très moderne, dans la mesure où, au lieu d'agir comme les missionnaires de l'époque qui distribuaient des communions et des baptêmes, il respecte la liberté des gens. Il est simplement une présence de prière au cœur du Sahara. Il est tout de même très moderne dans le sens où il prévoit tout l'avenir de l'Afrique, tout ce qu'on peut y faire, des lignes d'avion, des chemins de fer, des routes. Et il est plus encore moderne parce que c'est un homme de l'absolu, de l'exigence. C'est tous ces garçons qui partent à Katmandou, qui plaquent leur famille, qui vont au bout du monde pour faire Dieu sait trop quoi. Eh bien lui, il échappe à tout, mais il ne se borne pas qu'à ça. Il découvre le Maroc. Ça me paraît tout de même assez moderne. Et puis alors, ce goût d'aller jusqu'au fond de son propre être et de faire tout ce qui lui vient à l'esprit, ça c'est très moderne aussi. Je pense que c'est un homme de tous les temps et donc un homme moderne. Et cette passion est bien celle d'aujourd'hui. Et ce désespoir est celui d'aujourd'hui. Et cette angoisse est celle d'aujourd'hui aussi.
Mais pourquoi de tous ces personnages que vous avez pu fréquenter par vos travaux d'historienne, pourquoi avez-vous choisi de faire la biographie de ce Charles de Foucault plutôt que, je ne sais pas, de la biographie d'autres de ses contemporains, de la Perrine ou de Lyoté, par exemple?
Parce que je m'intéresse au problème de Dieu, au problème de la conversion, et que pour moi, écrire, c'est me transformer, c'est réfléchir, et que à travers Charles de Foucault, j'ai relu et étudié Thérèse d'Avila, et que j'ai été en compagnie de quelqu'un qui me passionnait et qui, en très grand par rapport à moi, peut-être me ressemblait ou me paraissait proche. Vous voyez, la Perrine est un homme tout à fait remarquable, mais c'est un agnostique. Or, moi, c'est le problème métaphysique qui m'intéresse. Pour dire des choses personnelles, puisque vous voulez qu'on en dise, si je découvrais sincèrement que Dieu n'existait pas et que tout était vraiment absurde, je me suiciderais demain. Ce qui m'étonne, c'est que tant de gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu acceptent de vivre. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux se suicident. Je préviendrai mes enfants, je leur dirai je vous ai trompé, je me suis trompé, allons-y, hop, terminé. Je comprends mal qu'on puisse vivre sans trouver un sens à sa vie.
Et ce sens, vous l'avez trouvé en Dieu?
On n'a jamais rien trouvé, mais j'ai la foi, oui, j'ai la foi.
D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on sent très bien, en lisant votre livre, que certaines pages n'auraient pas pu être écrites par quelqu'un qui n'était qu'une historienne, si vous me permettez cette expression.
Je ne suis pas qu'une historienne, c'est un poème, un livre. Je reviens au mot de poème, c'est un acte créateur. Si vous voulez, à un moment donné, j'avais pensé faire un livre sur le père enfantin, qui est un homme tout à fait fascinant, qui est à l'origine de toute une vie associative, de beaucoup de découvertes, de la création du canal de Suez, etc. Et puis j'ai vu que le père enfantin, j'ai travaillé 6 mois, à la fin de sa vie, sombrait dans une débauche de mauvaise qualité, genre Gurdjieff à la fin de sa vie, et des espèces d'entrepôts où on se livrait à des orgies. Et je me suis dit, mais voyons, passer des années de ma vie avec cet homme, ça va beaucoup m'ennuyer, c'est une vie qui va en descente. Alors, oui, ce qui m'intéresse, c'est tout de même ce qui est de l'ordre de l'amour. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée de Charles de Foucault.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Charles de Foucault, Louis-Philippe, dont vous avez écrit aussi
Ça, c'est la bonne question, oui.
Oui, et la princesse Mathilde, enfin, c'est des gens très, très différents.
Oui, alors, je vais vous expliquer, ça, c'est très facile. Depuis que je suis née, je crois, ou depuis que je suis petite, je sais que j'écrirai des livres. Quand j'étais enfant, c'était probablement mêlé, rien n'est jamais pur comme sentiment, c'était mêlé d'un peu d'orgueil. Mais j'avais une enfance très triste. On peut vivre dans une famille aisée et avoir une enfance très triste. Mon seul refuge, c'était les livres. J'ai lu beaucoup et très tôt. Ensuite, j'ai grandi à la campagne pendant la guerre. Il ne m'est pas arrivé de choses extravagantes. Mon milieu n'était pas celui de Françoise Sagan. Et j'ai dit que j'allais écrire. Et j'ai pensé que je ne pouvais pas écrire un roman parce que je ne savais rien et qu'il fallait quand même continuer à me cultiver. Alors la culture, après mes bachots, ça a été d'écrire un livre sur la princesse Mathilde. Parce que la princesse Mathilde, c'était le Second Empire, que je n'étais pas chartiste, que c'était la rencontre de beaucoup d'écrivains et d'artistes, et c'était donc une prolongation d'une culture d'humaniste, si vous voulez. C'était la rencontre de Flaubert, de Gautier, de Taine, de Renan, de tous les plus grands peintres. Donc, c'était une manière de m'approfondir à travers cette femme. Ensuite, ben on frappe à la porte, je crois que ce n'est pas le moment. Bon, ensuite... Ah non, c'est au-dessus, oui, c'est les travaux du dessus. Bon, alors, après la princesse Mathilde, j'ai écrit un roman que j'aime bien, qui a ses limites, qui était une réflexion sur l'Anjou où j'avais grandi. Puis je me suis attaquée à Louis-Philippe et la Révolution française, notez-le bien. J'arrête ça au moment où Louis-Philippe, en épousant Marie-Amélie, rentre dans le sein des Bourbons. Et ce livre était une manière de réfléchir à la Révolution française, dont aucun d'entre nous n'est guéri, et de réfléchir aux problèmes religieux qu'implique la Révolution française. C'était déjà aussi un acte de recherche métaphysique, voyez, les causes de la Révolution française, pourquoi cette révolution, cette rupture pour un pays avec le sens du sacré, hein? C'est à partir de la Révolution, le chef du gouvernement, qu'il soit roi ou qu'il soit président de la République, ne s'est plus reconnu, redevable devant Dieu de ses actes. Mais cette réflexion sur la Révolution française était une recherche d'élargissement de ma culture, mais en même temps une réflexion religieuse. Et puis je ne me trouvais pas assez mûre pour parler de Charles de Foucault. Et arrivé à maturité, on le voit à la télévision, j'ai pas 25 ans, j'ai pensé que c'était le moment ou jamais d'aborder ce qu'il y avait de plus dur, c'est-à-dire la vie d'un saint et des problèmes d'ordre religieux, parce qu'il y a tout de même le secret du roi, il y a un mystère de l'être dans sa rencontre avec Dieu. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et donc j'ai essayé de le faire.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous qui avez justement étudier ses vies. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir une vie? Réussir sa vie?
Ah, sur des mots. Ouf, c'est tout bonnement devenir ce que l'on est. Vous savez, c'est une réponse bien banale que je vous fais. Autrefois, j'aurais pensé, comme tout le monde, pensant à mes enfants, on a envie, en effet, qu'ils réussissent selon le monde. C'est vrai qu'à travers un livre, on évolue. Ça m'est tout à fait égal, sincèrement maintenant, qu'un de mes enfants n'ait pas réussi, ne gagne pas beaucoup d'argent, ne fasse pas un mariage brillant. La réussite sociale m'indiffère assez. Encore que je ne sois absolument pas égalitariste, que je crois aux différences sociales et que je crois que cette classe moyenne qui est en train, which is spreading all over the world, que c'est assez navrant, je crois, à la différence. Mais pour moi, réussir sa vie, c'est faire son unité, n'est-ce pas?
Et à quel
prix? C'est agrandir le vase.
Et à quel prix et par quels moyens?
Pour chacun, c'est différent, la voie. Mais probablement... Il n'y a pas de recette. Mais j'ai une image que je donne souvent à mes enfants, puisque je crois à Dieu. Je crois à l'enfer, je crois aux démons. Je crois aux anges, des tas de choses qui sont refusées.
Une religion dite assez traditionnelle.
Je ne sais pas si c'est traditionnel, puisque depuis 40 ans, on n'en parle plus. Je crois que c'est nouveau, au contraire, et assez moderne. Mais je crois que l'idée, c'est d'agrandir le vase, comme disait l'abbé Huvelin. Alors que chacun, après la mort, s'il n'a pas fait de péché mortel, et les conditions du péché mortel, on les apprenait autrefois... C'est assez difficile, au fond, de faire un péché mortel. Il faut matière grave, pleine connaissance de cause et entier consentement. Alors, peu de gens doivent le faire. Mais il y a tout de même du monde en enfer. Alors, l'idée, c'est d'ailleurs l'idée des saints, c'est d'agrandir le vase, parce que chacun, quand il sera dans le feu de l'amour, sera absolument rempli par l'amour de Dieu et ne regrettera rien. Mais si vous êtes un dé à coudre, vous serez rempli comme un dé à coudre, que voulez-vous? Et si vous êtes une énorme vasque, vous serez rempli par une énorme, comme une énorme vasque. Donc, vous en saurez et vous en apprendrez beaucoup plus. Et ce qui est théologique et passionnant, c'est de dire que dans l'amour divin, l'amour ira se creusant et s'agrandissant tout le temps. Quand vous aimez un homme, ce qui est tout à fait merveilleux, eh bien, on est plutôt tenté d'être saisi par l'habitude. Et le gros travail, c'est d'éviter l'habitude dans une relation entre un homme et une femme. Tandis que dans l'amour de Dieu, tout ira, la connaissance ne cessera jamais. Je crois que c'est tout à fait théologique. Alors, c'est un pari. C'est un pari absurde. Et à la limite, voyant par exemple le Saint-Père l'autre jour de très très près à Rome, mais qui nous dit que le Saint-Père, par moment, ne pleure pas dans son lit comme un enfant en disant j'ai fait ce pari fou. Moi, je l'ai fait et j'essaye de le tenir.
C'est un pari, c'est un risque aussi.
Un risque.
Comme tout ce, qu'on parie, ce sur quoi on parie.
C'est un risque de s'être trompé. S'il n'y a rien, on retourne dans un espèce de cirque. C'était le cycle de l'azote, ce qu'on apprenait quand on était enfant. Mmh. On se dissout et tout recommence et on ne vit que dans la mémoire des hommes. Je trouve que ce n'est pas tellement intéressant, ne vivre que dans la mémoire des hommes. Et je ne peux pas imaginer que ce qu'on a pressenti de merveilleux et d'absolu ne nous soit pas donné une fois.
Marguerite Castillon du Perron, je vous remercie.
Rappelons que Madame Castillon du Perron est historienne. Elle a publié récemment chez Grasset une biographie remarquable de Charles de Foucault. Cette vie de saint, en somme, n'est pas ce qu'il est convenu d'appeler généralement une vie de saint. Il s'agit vraiment d'une biographie intelligente, sérieuse, très bien documentée, qui permet de découvrir Charles de Foucault sous tous ses aspects. Marguerite Castillon du Perron a aussi publié deux romans, L'Or chez Amyot Dumont en 56 et Le Coma chez Plomb en 1973, ainsi que deux importantes biographies, l'une de la princesse Mathilde, parue chez Amyot Dumont en 53, et l'autre intitulée Louis-Philippe et la Révolution française, en deux volumes, publiée par la librairie académique Perrin en 1963. Enfin, Madame Castillon du Perron a fait paraître à son retour de Chine, Vivre en Chine, chez Detlef Brouwer en 68.